Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Clément Salazar, aussi Tiffaine de Ruquigny, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontanille. Ce matin, nous allons nous intéresser non pas à l'espionnage d'État dont on parlait hier, mais à l'espionnage dont nous sommes les héros, celui orchestré par les GAFA, les fameux géants du web, tracking, profilage, comment ces entreprises collectent et monétisent nos données personnelles, et à quelle fin faut-il s'en inquiéter, l'espionnage en ligne ou l'espion dans la poche, c'est notre sujet ce matin.
On a tous nos petites manies. On a tous notre routine quotidienne. Moi, tous les matins, c'est simple, je prends un café et j'allume l'ordi. Que ce soit sur mon ordinateur ou mon téléphone, je livre chaque matin des tonnes d'informations sur moi sans qu'on me les demande. Ça, c'est mon nom. Ça, c'est mon adresse. Ça, c'est mon compte Twitter. Et ça, ce sont mes photos Instagram. Mais il y a beaucoup de choses que je partage sans le savoir, sans le vouloir, et vous aussi.
Là, il y a un Pokémon ici. C'est peut-être une créature rare que je n'ai pas encore. J'ai presque tout capturé dans le coin.
C'est très addictif de marcher comme ça et de chercher des Pokémon.
Quand on était petits, on voulait tous les attraper. Et maintenant, ça y est, on les capture.
Là, je m'arrête 3 stations avant d'aller au travail parce que je me dis, il y a peut-être des Pokémon que je vais rencontrer sur le chemin du boulot. Il y a certainement un Pokémon qui se cache derrière un arbre ou quelque chose comme ça.
Extrait du documentaire Do Not Track et puis un reportage, comme il y en a eu des dizaines sur Pokémon Go. Tout le monde en parle depuis qu'il a fait irruption sur les écrans des smartphones de la planète cet été, qu'il est devenu le premier jeu mobile téléchargé dans une 60aine de pays partout. On veut tous les attraper, ces Pokémon, et partout. L'envers du décor, c'est que d'autres peuvent également toutes les attraper, nos données. Derrière ce jeu, Niantic, une entreprise dirigée par John Hank, un nom qui ne vous est peut-être pas familier, mais qui s'est retrouvé il y a quelques années au cœur de l'affaire dite WiSpy, l'un des plus gros scandales d'atteinte à la vie privée de l'ère Internet. En effet, grâce aux fameuses Google Cars, chargées de cartographier nos villes pour le service Google Street View, le responsable de la cartographie a secrètement enregistré des masses d'informations privées, historiques de navigation, email, mot de passe, situation financière, même des fichiers audio, fichiers vidéo. Un passif inquiétant qui pourrait transformer la chasse aux Pokémon en chasse au Big Data. Le gibier ne serait peut-être pas celui qu'on croit. Niantic n'est pas la seule à collecter et à réutiliser nos données. Les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon sont devenus des experts en la matière, se partageant l'essentiel de la monétisation de nos données personnelles. Pokémon Go ou l'allégorie même de ce monde où nous mettons nous-mêmes le mouchard dans notre poche, où les GAFA nous traquent et font de nous, à l'heure du tout connecté et tout gratuit, le produit. Alors comment fonctionne cette grande traque? Comment nos données personnelles sont-elles devenues une nouvelle mine d'or pour les grandes entreprises du web et quelles menaces cela constitue pour nos sociétés? Quels sont les dangers de l'Internet des objets connectés, les objets dits communicants et de son avatar le plus abouti, la Smart City, comme celle de Songdo en Corée du Sud? On essaiera d'en parler. Quels impacts sur nos relations sociales, notre rapport aux politiques aussi, et puis nos relations intimes? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles on va se pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons deux invités avec nous ici en plateau. D'abord, Marie-Line Laurent, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure en sciences informatiques à Télécom Sud Paris.
Oui.
Et vous êtes une spécialiste donc de la protection des données personnelles et de la sécurité des réseaux. Vous avez coédité cet ouvrage, La gestion des identités numériques. À vos côtés, Blaise Mao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous rédacteur en chef adjoint du magazine Ouzbek Erika, un magazine sur le futur.
Qui explore le futur.
Qui explore le futur. Et vous êtes auteur, vous, de cet ouvrage Cyberfragile, enquête sur les dangers de nos vies connectées, que vous aviez coécrit avec Thomas Saint-Ourance chez Talendier. Alors, première question. Qui sont les chasseurs, qui sont les gibiers dans Pokémon Go, Blaise Mao?
Qui sont les chasseurs, les utilisateurs? Qui sont les gibiers, les utilisateurs, un petit peu? En fait, c'est effectivement Pokémon Go, c'est l'exemple typique d'un service ludique, un jeu qui permet d'ouvrir des portes de manière, on va dire, inconsciente de la part des usagers.
Ouais, c'est étonnant de voir tous les commentaires que ça a suscité. Évidemment, c'est un succès mondial, mais quand même, on a un peu oublié qu'en réalité, au cœur de tout ça, on a d'abord et avant tout un outil extraordinaire qui n'a peut-être pas d'égal pour aspirer les données personnelles.
qu'il n'y a pas d'égal. C'est surtout le grand problème, c'est l'invisibilité, si vous voulez. Et c'est l'absence totale de culture numérique des gens qui, en fait, quand ils téléchargent ce type de service-là, que ce soit un jeu, que ce soit une application de service pratique pour les transports, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils ont un rapport un peu magique à la technologie, au service rendu par la technologie, sans avoir le degré de conscience de leur vulnérabilité et du nombre de données et de la nature des données qu'ils laissent ouvertes en téléchargeant ce type de service.
Marine Laurent, oui. Que vous inspire ce fameux jeu Pokémon Go ?
Ben en fait, on devient tous...
Sur le problème qui nous intéresse ce matin.
Hein, oui, tout à fait. Ben en fait, on devient tous quelque part consommateurs de nouvelles technologies. Donc là, c'est à but ludique. Mais il faut voir qu'effectivement, sous couvert de services particulièrement attractifs, pratiques pour notre vie de tous les jours, mais effectivement, il y a des données personnelles qui fuitent finalement vers les GAFA.
Concrètement, là, sur ce jeu-là, quelles sont les données qui sont susceptibles d'être récupérées ?
La géolocalisation, bien sûr, c'est quelque chose qui est vraiment très personnel. Et bon, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, mais typiquement, si vous prenez sur une journée 3 relevés de géolocalisation correspondant à une personne, on est capable d'identifier parmi, on va dire, une base de données qui serait conséquente de plusieurs millions d'utilisateurs, on serait capable d'identifier une personne. C'est simple, il suffit de savoir où vous habitez, où vous travaillez, et puis un autre relevé de géolocalisation dans la journée. Ça suffit vraiment pour vous identifier, c'est-à-dire vous, quelque part, vous personnaliser. C'est-à-dire on sait exactement qui vous êtes.
Alors on va voir justement jusqu'où on arrive à nous identifier. Mais il y a un autre fait d'actualité que je voudrais évoquer avec vous, Blaise Mao. Depuis quelques jours, il y a une polémique qui a éclaté autour de la censure de la photo de 1972 de cette jeune fillette vietnamienne, nue, fuyant les bombes au napalm, qui est une photo qui est devenue évidemment un symbole de la guerre au Vietnam et de toutes ses conséquences. Tout a commencé quand un auteur norvégien de polar, Tom Hegland, se voit retirer son poste. L'algorithme Facebook, considérant qu'il s'agit d'un contenu illicite, puisque la fillette est nue, en réaction, en soutien, on a un certain nombre de Norvégiens qui ont également publié cette photo, comme d'ailleurs la première ministre norvégienne, qui a subi la même interdiction. Alors le patron du principal quotidien national, Aftenpost, a écrit un édito pour dénoncer la censure de Facebook. Il a écrit, je le cite, « J'ai beau être le rédacteur en chef de mon journal, je dois reconnaître que votre décision d'effacer l'article accompagnant la dite photo restreint mon espace pour exercer ma responsabilité éditoriale. » De son côté, Facebook a fait savoir par un porte-parole qu'il s'agissait d'une photo iconique, mais qu'il aurait été très difficile d'un point de vue technique de faire la distinction entre une photo à caractère pédopornographique et puis une photo, une image iconique. Donc, dans ce cas en particulier, Facebook a fini par renoncer à l'interdiction de la publication de la photo. Mais cette polémique, quand même, Blaise Mao, elle illustre parfaitement le pouvoir de ce réseau social sur le contenu dont nous avons accès.
C'est vrai, et elle est aussi révélatrice des limites de l'intelligence artificielle encore pour le moment. Mmh. Il y a eu une polémique similaire quelques mois auparavant sur, je crois que c'était le cas de Google Images, où il y avait en fait une personne à la peau noire qui a été identifiée comme gorille par l'algorithme. Mmh. Voilà, ça avait fait le même. Voilà, ça c'est pour indiquer vraiment la limite de certains algorithmes de reconnaissance faciale, le fameux système de reconnaissance faciale. Pour revenir à votre question, c'est vrai. Facebook a un pouvoir de prescription aujourd'hui et il y a cette grande hypocrisie sur qu'est-ce qu'on laisse ou qu'est-ce qu'on laisse pas. C'est-à-dire qu'une femme seins nus une photo de femme seins nus va être immédiatement censurée. Par contre, une personne en string, ça va passer. Ouais, ouais, il y a cette espèce de double langage. C'est le même problème sur les questions d'apologie du terrorisme. C'est très compliqué. Twitter a eu énormément de problèmes. Et la plupart des réseaux sociaux commencent quand même à prendre des mesures sur ce plan-là. Ils sont à la fois... ils ont un cadre rigide et ils ont énormément de cas particuliers à gérer. Mmh. Or, ils ont des algorithmes qui ne sont pas encore capables de gérer chaque cas particulier. Mmh.
Sur ce pouvoir de prescription, justement, Marine Laurent, on ne se rend pas compte, mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations auxquelles on accède par les réseaux sociaux, qui sont en réalité préalablement triés, c'est-à-dire en fonction de nos recherches sur un moteur de recherche, en fonction des sites qu'on a visités, de nos centres d'intérêt, le contenu éditorial qui va nous être proposé en réalité, et disons adapté, je mets des guillemets, à notre profil, je remets des guillemets. On n'a pas idée combien effectivement tout ça est sélectionné avant que ça nous arrive à nous.
Tout à fait, en fait, on est tous profilés, hein. Parce qu'on fait des recherches par mots-clés, donc forcément on a des sujets d'intérêt qui font qu'on va vous classifier.
C'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif ?
Non. Là, c'est vraiment des algorithmes qui s'appliquent. Mmh. Et donc, effectivement, on va, quelque part, on va vous classifier. Donc, vous allez rentrer dans une certaine catégorie de profil, dans une certaine catégorie, finalement, de consommateur, parce que c'est quoi l'objectif, finalement, hein? C'est de vous vendre du service, vous de vendre du produit. Et donc, l'idée, c'est de savoir tout de suite identifier à quel profil vous appartenez pour coller au mieux. Et ensuite, mettre en contact, finalement, par le biais de publicité ciblée, de mettre un service publicitaire avec un consommateur potentiel. Mmh. Et donc, le service publicitaire, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que derrière, il y a quand même tout un modèle, si vous voulez, économique. Ce que va faire le publicitaire, c'est qu'il va payer, finalement, la société qui va le mettre en contact avec ce consommateur. Et donc, il va pousser des publicités. Et parfois, c'est en nombre de clics. Un utilisateur va cliquer sur certaines publicités qui l'intéressent. Eh bien, la société qui les aura mis en correspondance, cette plateforme, finalement, va gagner un certain nombre de crédits et donc va se faire financer de cette façon-là.
Essayons de voir comment Blaise Mao fonctionne alors on appelle ça le tracking en anglais, disons le traçage en français. Donc c'est finalement l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour suivre justement les internautes et noter tous leurs faits et gestes pour établir justement leur profil. Expliquez-nous comment ça fonctionne concrètement, jusqu'où ça va, est-ce qu'on peut presque tout savoir, qu'est-ce qu'on peut savoir sur nos habitudes, sur nos identités, Blaise Mao?
Il y a ce qu'on appelle les données massives, c'est-à-dire vraiment les grands flux de circulation, de communication. Et il y a après une surveillance plus on va dire, ciblée, avec là un profilage qui a été bien décrit et dans lequel on est le premier complice et le premier donneur de data. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a un œil qui vous observe en permanence, c'est d'abord ce que vous donnez aussi et comment vous alimentez un peu la bête.
Et d'ailleurs,
c'est là où il y a quand même une responsabilité individuelle.
Et on n'en a pas toujours conscience, mais effectivement, quand on navigue sur des pages internet, il y a un moment où on nous demande si on accepte que ce qu'on soit installé sur nos ordinateurs, ce qu'on appelle des cookies. Ça, c'est le cœur
des cookies,
de ce traçage.
Ou alors, est-ce que vous voulez que par exemple, vous utilisez une appli de running, vous faites de la course. Est-ce que vous voulez partager vos données sur Facebook et Twitter? Ça veut dire que vous donnez des données de santé, d'une certaine manière, des données de performance corporelle à tous vos amis et donc à Facebook.
C'est quoi des cookies?
Peut-être je vais laisser
Marilyn Laurent
l'explication technique.
Demain. Des cookies, en fait, c'est, si vous voulez, ce qui se trouve stocké au niveau de votre navigateur et qui correspondent à certains mots-clés que vous avez rentrés, des sites que vous avez... En fait, à l'origine, le cookie avait véritablement un intérêt, il y a toujours un intérêt pour l'utilisateur, c'était d'accéder à un service en personnalisant ce service. Donc, on gardait au travers de ce cookie, par exemple, la langue de l'utilisateur, et ça permettait vraiment de personnaliser l'interface, de personnaliser l'accès au service. Donc ça, effectivement, c'est un intérêt pour l'utilisateur. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que ces cookies, finalement, sont véhiculés, vous voyez, d'une société à une autre. On n'est pas forcément au courant de ça, hein, bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que, finalement, ces cookies ne se diffusent pas. Et c'est pour ça que
les régies publicitaires peuvent en installer.
Oui, tout à fait. Ils peuvent les collecter. Donc après, c'est vraiment purement technique.
Blaise Mao.
Oui, juste pour bien distinguer, quand on parle de tracking, de surveillance, on a tendance à croire que, parce qu'il y a eu les polémiques avec la NSA, avec toutes les agences américaines, mais aussi avec en France, avec le terrorisme et la loi surveillance, on a tendance à mélanger, on va dire, les GAFA, Facebook, Amazon, Google et les agences gouvernementales. C'est deux choses très différentes. Et il y a aujourd'hui aussi, il ne faut pas croire que tout le monde est surveillé par l'État et parce qu'on s'échange des vidéos de petits chats ou des clips de musique, on va être surveillé par l'armée française. Voilà, c'est juste pour préciser ça parce qu'il y a aussi une sorte de fantasme de la cybermenace qui se développe. Il y a quelque chose d'un peu classe.
C'est aussi la raison pour laquelle nous avons bien distingué les choses. On parlait hier effectivement de la NSA et on parle aujourd'hui des GAFA. On a essayé de distinguer les choses. Marilyn Laurent.
Moi, je serais peut-être moins enjouée sur ce sujet. Enfin, je dirais effectivement, il y a les GAFA. Eux, ils ont un intérêt économique. Mais après, on ne sait pas forcément ce qui se passe en souterrain, en fait. Ça, c'est la partie invisible. Donc, de temps en temps, il y a des informations qui émergent par le biais des médias où on se dit, tiens, c'est étrange quand même que finalement le système de cybersurveillance aille aussi loin. C'est-à-dire, sous couvert de lois antiterroristes, de lois du renseignement, finalement, eh bien, on en vient, si vous voulez, à autoriser beaucoup plus de perte de liberté, c'est-à-dire de diffusion, finalement, de données personnelles vers les renseignements. Et là, on ne sait pas forcément quels sont les accords qui sont passés, soit entre les GAFA et, par exemple, la NSA. Bon, on est un petit peu au courant, quand même, mais... On ne sait pas vraiment le fin fond des partenariats finalement qui viennent à l'intersection de ces donc de ces autorités de surveillance et des sociétés qui sont plus enfin qui portent sur le numérique. Et en France, je pense, ça peut être la même chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la loi du renseignement, c'est quand même donner la possibilité aux fournisseurs d'accès de pouvoir filtrer massivement des informations issues des utilisateurs. Donc ça va aussi
dans
ce sens.
La distinction n'est pas aussi nette que ça. Ouais.
C'est dans ce sens, quoi.
Je voudrais qu'on s'intéresse au lien entre la publicité et la protection des données. Je propose d'écouter Ethan Zuckerman. Alors peut-être que les auditeurs le connaissent pas, vous le connaissez forcément, c'est l'inventeur de la fenêtre pop-up. Vous savez, cette fameuse petite fenêtre qui s'ouvrait inopinément quand vous naviguiez.
Nous étions les précurseurs de MySpace, qui était le précurseur de Facebook, qui était le précurseur de la chute de l'humanité. Les gens publiaient des photos de leurs chats et nous devions essayer de faire de l'argent avec ça. Alors naturellement, nous avons rajouté des bannières de publicité sur les photos. 6 mois après, j'ai reçu un appel d'un représentant commercial de Détroit présentant notre système de publicité à la société Ford Motors. Il leur avait montré une de nos pages web au hasard pour que les dirigeants de Ford voient où se trouvait leur publicité. L'improbable arriva, il est tombé sur une page de sexe anal sur laquelle s'affichait en haut une publicité de Ford. Les gens de chez Ford n'étaient pas vraiment contents. Donc mon patron est venu me voir et m'a dit « Assure-toi que les pubs ne s'affichent pas sur les mauvaises pages ». J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai ajouté une fonction qui venait tout juste d'être ajoutée à JavaScript et qui permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur la page. Donc en essayant d'enlever la publicité de Ford de la page de sexe anal, j'ai fini par créer la première page pop-up.
Et oui, la première page pop-up, extrait de Do Not Track, est une série documentaire vraiment très bonne, personnalisée, consacrée à la vie privée et à l'économie du web. J'invite vraiment les auditeurs à y aller parce que c'est très très bien fait. Alors on entendait Ethan Zuckerman, qui d'ailleurs s'est excusé auprès des internautes d'avoir créé cette fameuse page pop-up, qui a expliqué quelles étaient au départ, en tout cas ses intentions, qui depuis, c'est ce qu'il dit, ont été détournées. Il est clair aujourd'hui que ce que nous avons créé était un fiasco. Il explique, nous pouvons voir maintenant, 20 ans après l'apparition des premières publicités, cité sur le web que le modèle est mauvais, cassé et corrosif. Je voudrais qu'on essaye peut-être de comprendre, Blaise Mao, les liens finalement entre la publicité sur Internet et la protection des données personnelles.
Si vous voulez, il y a aujourd'hui, effectivement, le modèle touche ses limites. Il y a une grande crise aujourd'hui de la publicité sur le numérique, notamment parce qu'il est aujourd'hui très facile de contourner la plupart des publicités qui sont proposées. Il y a eu quelques mois une polémique sur Adblock, donc qui est un service gratuit développé en logiciel libre.
Qui permet d'enlever les publicités.
Voilà, qui permet de bloquer la plupart des publicités quand vous lancez une vidéo sur YouTube, par exemple. Et ce service a été installé par des millions d'utilisateurs. Et je pense que c'est la preuve d'une certaine capacité de résistance côté utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut... c'est un vrai signal faible de notre futur, je pense, ce qui s'est passé avec Adblock. C'est-à-dire qu'un des utilisateurs lambda, là on parle pas d'une petite communauté de geeks, de libristes, vraiment experts dans ce type d'outils. Tout d'un coup, il y a réappropriation, démocratisation d'un outil comme ça très simple qui peut s'installer en 3 clics pour limiter la publicité intrusive. Et je pense que c'est prometteur. Ça veut dire que d'autres outils, il y a par exemple quelque chose qui monte en ce moment qui s'appelle l'obfuscation, qui est une technique pour brouiller en fait ces requêtes personnelles. Quand vous faites une recherche dans Google, en fait, ça, vous installez un petit logiciel qui s'appelle TrackMeNot, par exemple. Il y a un service qui s'appelle TrackMeNot qui vous permet en fait de faire plusieurs milliers de requêtes simultanées et donc de noyer vos requêtes personnelles. Je pense pas autant diffusé qu'Adblock, mais je pense que c'est très intéressant de voir émerger ce type d'outils qui sont en fait des manières de détourner presque avec une logique ludique la publicité invasive.
En fait, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, Marine Laurent, c'est qu'en réalité, c'est aussi l'exigence de gratuité des consommateurs, de nous autres internautes, qui nous a poussés, on s'en est pas rendu compte évidemment, mais qui nous a poussés vers ce chemin du tracking, du traçage en réalité.
Oui, tout à fait. Il faut bien qu'il y ait un modèle économique derrière, donc il faut bien que les sociétés qui disposent de gros serveurs, il faut vraiment voir que ce sont des data centers qui sont extrêmement coûteux, à la fois en matériel, mais également en énergie consommée. C'est vraiment des... Et il faut bien qu'à un moment donné, qu'ils puissent en vivre.
Tout ça,
exactement. Ouais. Donc si c'est pas le consommateur, eh bien ça peut être une agence de publicité ou ça peut être... En tout cas, on va faire fructifier vos données pour pouvoir les revendre à des sociétés tierces qui en ont besoin, elles, pour leur modèle
économique. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller justement vers un modèle où, pour protéger justement nos données, eh bien, les internautes se mettent à payer? Ce que dit Ethan Zuckerman, c'est la solution, au fond, c'est de faire payer aux internautes la protection de leur vie privée. Est-ce que ça vous paraît possible? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait glisser vers un modèle payant? Est-ce que c'est souhaitable?
C'est difficile de revenir en arrière. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'on a eu accès à la technologie, qu'il y a eu de la gratuité qui a été mise en place, les internautes peuvent accepter un certain nombre d'inconvénients, des publicités, des choses comme ça. Mais revenir sur la gratuité, je pense que ce sera vraiment difficile.
Vous y croyez, Blaise Mao?
Peut-être, parce qu'en fait, quand on voit la vitesse à laquelle le marché de la cyberassurance se développe auprès des entreprises qui ont bien compris les risques massifs de chantage à la donnée, c'est des millions et des millions d'euros. Là, ça concerne des très grands groupes, des grands assureurs. Quand c'est du vol de données massives, aux États-Unis, le marché de la cyberassurance s'est développé très vite. Quand on voit quand même la multiplication des grandes affaires de piratage de données citoyens, je pense par exemple à Ashley Madison, le site de rencontre, où c'était 33 millions de comptes de gens avec les données les plus intimes possibles qui étaient tout d'un coup mises en pâture. Le Celeb Gate aussi, où il y avait eu toutes ces célébrités dont les photos intimes avaient été révélées sur des forums internet. Je pense qu'on peut imaginer qu'il va y avoir à un moment, si on continue comme ça, il va y avoir encore plus d'affaires. Et donc, peut-être qu'on sera prêt à payer. Ça sera peut-être inclus dans des forfaits. Je ne sais pas encore la forme que ça prendra, mais ce n'est pas impossible. Je n'écarterai pas complètement cette hypothèse de devoir un jour payer pour bien protéger ces données.
Et alors la question, combien faudra-t-il payer? Et d'ailleurs, en creux, celle qu'on a en complémentaire, c'est finalement combien les entreprises qui utilisent ces big data gagnent aujourd'hui en collectant et en monétisant nos données.
Alors, ce qui est intéressant sur ce plan-là, c'est de voir le tournant des GAFA et des différents services qu'elles possèdent sur une question comme le chiffrement et donc sur l'utilisation d'outils de sécurisation, de cryptage des communications. Services comme WhatsApp de messagerie, aujourd'hui les communications sur WhatsApp sont chiffrées, sont protégées. Et donc, en fait, on a vu aussi la polémique avec Apple au moment de l'affaire du terroriste de San Bernardino. Est-ce qu'il fallait livrer la clé des chiffres? Bon, ça veut dire que les GAFA ont besoin d'assurer une certaine forme de sécurité des données.
On rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas entendu hier, c'est que les autorités publiques ont sollicité l'aide d'Apple, qui a refusé. Finalement, ils sont parvenus, les autorités, à débloquer le téléphone seul. Mais évidemment, cette question, elle va se reposer à un moment et de savoir s'il faut mettre en place un accès pour les autorités. Alors évidemment, dans quel cadre?
Voilà, ce que Tim Cook a dit, ça reviendrait à offrir la clé pour hacker tous mes utilisateurs. Et donc c'est aujourd'hui les GAFA, on parlait de leur, c'est vrai, opacité, ambiguïté dans leur relation avec les agences gouvernementales. Elles ont aussi besoin d'assurer une forme de confidentialité des données usagées et elles sont en train quand même de prendre le virage, notamment du chiffrement et des services de chiffrement pour garantir cette sécurité-là.
Oui, parce qu'évidemment, les consommateurs, ils sont quand même attentifs.
Ils commencent de plus.
Marilyn Laurent.
Sur les aspects chiffrement...
Sur la question économique, sur la question de savoir finalement combien ces entreprises gagnent à utiliser, à collecter nos données. On a une idée de ça?
C'est assez compliqué, très opaque en fait.
Ouais.
Donc on ne peut pas vraiment évaluer. Non, c'est très compliqué. Il y a peut-être au moment où de la revente d'une société vers une autre, c'est là qu'on peut se dire, tiens, elle pèse l'enveloppe financière qui est allouée à cette entreprise, finalement, elle est de plusieurs milliards. Ça comprend à la fois le service, à quel point il a pénétré le marché finalement. Donc à quel point finalement les consommateurs ils sont accros. Mais également, c'est en termes de tout l'historique, toutes les données personnelles qui ont pu être collectées pendant des années et qui sont également extrêmement riches et dont on peut construire après des services. Hein. On ne soupçonne pas encore aujourd'hui quel usage on peut faire de ces données. Mais il y a une réglementation, hein. Enfin, je vais vous dire.
Alors justement, parlons de réglementation, parce qu'il y a effectivement d'autres acteurs du net qui pourraient très bien aussi faire la même chose, collecter, commercialiser nos données. Or, il y a des exemples qui montrent que tout le monde ne le fait pas. Regardons par exemple en Europe, OVH, qui est le premier hébergeur, je crois, de sites web en Europe, qui a des capacités de stockage absolument gigantesques, qui pourrait traiter et analyser les données de ses nombreux clients. Or, il se trouve qu'ils ne le font pas. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? Est-ce que c'est parce que, par exemple, la législation européenne serait plus regardante en la matière ? Est-ce qu'il faut aller regarder de ce côté-là pour comprendre ?
Je pense avant tout, c'est une question de technologie, de savoir-faire. Mmh. Il faut voir que les GAFA aujourd'hui ont vraiment une très très grande avance technologique et il est compliqué de les concurrencer. Encore une fois, ils sont bien implantés, les consommateurs ont pris leurs habitudes. Il est difficile d'en changer. Après, de là à dire la réglementation européenne viendrait freiner finalement le développement de telles sociétés, il faut voir que les citoyens européens sont protégés, quoi qu'il arrive, que leurs données... Enfin, c'est le principe même, hein, je n'invente rien. C'est-à-dire, les citoyens, quoi qu'il arrive, s'ils sont générateurs de données personnelles, ces données personnelles sont protégées par une réglementation européenne.
Et alors, ça veut dire qu'elle est plus efficace que la réglementation américaine ? Je vous pose la question parce que l'année dernière, il y a un responsable de Facebook qui s'appelle Richard Allen, qui a publié une tribune dans le Financial Times pour se plaindre, en gros, de la prolifération des enquêtes menées à l'encontre de Facebook. Quelques jours auparavant, il y avait eu un rapport de la Commission européenne qui concluait que Facebook violait un certain nombre de règles en matière de protection et de gestion de la vie privée. Est-ce que ça veut dire que finalement l'Union européenne montre qu'elle est peut-être mieux armée pour protéger les libertés fondamentales des Européens face à ces géants du web ?
Il n'y a aucun doute là-dessus. Mmh. Hein. Aucun doute, c'est-à-dire que... Mais la vision, encore une fois, de la vie privée est totalement différente pour un citoyen américain que pour un citoyen européen. Il faut voir qu'au niveau européen, on demande systématiquement, on doit demander, en tant que société consommatrice de données, eh bien, cette société doit demander le consentement à un utilisateur. C'est-à-dire, en principe, il y a un accord. C'est-à-dire, je fournis des données, c'est pour un certain objectif. Il y a une transaction qui est en train de se faire. D'accord ? Donc, il y a un cadre. Et donc, on consent à donner ces données pour ce cadre-là. À partir de là, la société décide de les divulguer à un tiers, elle peut sortir du cadre. En tout cas, il faut qu'elle ait obtenu au préalable le consentement de l'utilisateur. Donc, il y a une certaine transparence qui est demandée par la Commission européenne pour qu'un utilisateur soit toujours informé et clairement informé du devenir de ces données. À quoi elles vont servir ? Il y a toujours aussi un délai de rétention qui doit être précisé. Est-ce que c'est pendant la durée de la transaction ou est-ce que la société peut les conserver un certain temps par la suite.
Blaise Mao, sur cette question de la législation européenne.
Elle est effectivement beaucoup plus au point, on va dire, et même en termes de positionnement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une culture numérique très différente de celle des États-Unis, et je pense qu'elle va encore se renforcer. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui émerger, avec notamment le placement des assureurs sur la question des données de santé. Ça existe déjà, par exemple, au niveau automobile. Vous pouvez, un conducteur vertueux qui accepte de mettre un tracker dans son véhicule, si on se rend compte qu'il ne dépasse jamais les vitesses, il va pouvoir faire des économies. Voilà, il va pouvoir gagner de l'argent. Mais cette logique-là, qui est aujourd'hui positive, hein, qui est un peu la carotte qu'on propose à l'usager connecté, elle peut également être par la négative. Imaginez que les hôpitaux publics utilisent massivement les données et que quelqu'un qui a une deuxième thrombose coronarienne parce qu'il fume 4 paquets de cigarettes par jour, on se rende compte que voilà, l'opération, ça coûte 2000 euros de faire une injection de thrombolyse. Est-ce que... le modèle social français va accepter de rembourser ça si les données de cette personne montre qu'elle fume 4 paquets de cigarettes.
Voilà, là,
vous voyez ce que je veux dire?
Là, on voit les dangers.
On peut retourner le tracking. Il y a le côté carotte, je propose un avantage à l'usager, mais il y a derrière une potentielle société avec une forme de discrimination par la data qui va rendre la législation encore plus importante, le cadre législatif.
Il est 11h passé 30 minutes, vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde dans cette série consacrée à l'espionnage. Aujourd'hui, Google, Amazon, Facebook, l'espion dans la poche. On est avec Blaise Barraud et Marilyn Laurent.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va poursuivre justement sur les conséquences de ce tracking qu'on évoquait. Alors on pense souvent à la surveillance comme une relation, disons, à deux, c'est-à-dire entre le collecteur de données et puis le sujet de ces données, c'est-à-dire nous. Pourtant, c'est tout l'objet d'un récent article de la Harvard Business Review, coécrit par Karen Levy. La surveillance peut être réfractive. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les informations provenant d'un groupe A peuvent aussi être utilisées pour influencer, pour contrôler, disons, un groupe B. C'est notamment le cas pour certains travailleurs de magasins, de restaurants, de centres d'appel. Première conséquence. Conséquence, la durée de la journée de travail qui se retrouve parfois complètement atomisée, comme nous l'explique Karen Levy, qui est professeure assistante à la Cornell University. Elle est au micro de Clémence Alezard.
L'intérêt des logiciels algorithmiques de planification que de plus en plus de magasins et de restaurants utilisent, c'est de leur permettre d'allouer le plus efficacement possible leur masse salariale en fonction des estimations de vente ou de fréquentation pour un temps donné. Ce système s'est développé depuis quelque temps et ce que l'on sait, c'est que cette évolution s'accompagne d'une tendance à employer des salariés pour des périodes plus courtes. Donc en fait, vous mobilisez des données clients pour arriver à la meilleure estimation de ceux qui viennent dans votre magasin. Par exemple, vous prenez le nombre de personnes présentes dans le magasin pour un jour donné, une heure donnée, ou même une période de 10 minutes, et en vous appuyant sur ces données de fréquentation auxquelles vous pouvez ajouter de nombreuses autres données, vous êtes capable de définir l'estimation la plus fine et la plus précise du nombre de travailleurs dont vous avez besoin pour optimiser vos ventes durant cette période. Mais ce que l'on a découvert, c'est qu'avec cette planification dynamique à court terme, selon laquelle on fait venir les employés pour des durées plus courtes, où l'on change au dernier moment leur planning, les conséquences sont vraiment négatives pour les travailleurs. Cela devient plus difficile pour eux d'obtenir une garde d'enfants régulière, de suivre des cours à côté ou de faire un autre travail, de s'occuper d'autre chose. Et du coup, notre idée centrale dans l'article, c'est que les données clients contribuent de façon cachée à déstabiliser la vie de ces travailleurs.
Vous expliquez également dans cet article, Karen Levy, que des logiciels qui centralisent entre autres des données concernant les clients finissent par faire perdre de la valeur aux travailleurs eux-mêmes. Comment est-ce que c'est possible?
En effet,
vous faites ici référence à un ensemble d'outils qu'on appelle de clientèle ou logiciels de clientèle. Dans certains contextes particuliers, par exemple certains magasins, les vendeurs développent une relation personnelle avec leurs clients. Ils connaissent leur date de naissance, leurs produits ou couleurs préférées, tout ce genre de choses. Typiquement, cette relation personnelle au client, c'est ce qui donne de la valeur à l'employé, parce qu'il est peut-être la seule personne de l'entreprise à avoir ce type de connaissances, et cela le rend particulièrement précieux. Et donc, ce que l'on observe, c'est que de plus en plus d'entreprises tentent d'intégrer ces informations de clientèle dans leur base de données. Au lieu de l'écrire sur un registre, un employé entre cette information dans une tablette et la rend ainsi accessible à n'importe quel autre employé du magasin. Un des effets est que désormais, si l'employé quitte le magasin, cette information reste à l'entreprise. Les employés n'ont donc plus beaucoup de valeur et deviennent davantage interchangeables. Quand on lit la documentation des entreprises qui se sont engagées dans cette voie, c'est exactement leur objectif, l'idée qu'elles ont à l'esprit. Faire en sorte que l'information reste quand les salariés partent. Mais si on réfléchit, on voit que dans le cadre d'une négociation salariale, pour obtenir une promotion ou un meilleur emploi du temps, le salarié perd son pouvoir de négociation, puisqu'il ne dispose plus d'informations personnelles sur les clients qui seraient valorisables par l'entreprise. Toute cette collecte de données facilite également l'évaluation des vendeurs par leurs employeurs selon différents critères et de façon de plus en plus systématique. Par exemple, en se basant sur les systèmes qui suivent les déplacements, à partir du moment où vous disposez de cette information sur vos clients, il est assez facile de savoir aussi ce que font vos salariés. D'un seul coup, on se retrouve avec de nouvelles informations que l'on peut utiliser pour savoir, par exemple, si les salariés prennent le bon nombre de pauses ou le temps qu'ils passent dans les différentes parties du magasin. Une fois que vous avez mis
mis en place l'architecture centrale, surveiller vos travailleurs est très facile. Par exemple, la plupart du temps, ces systèmes s'appuient sur le portable du client. Vous avez une sorte de signal dans le magasin qui détecte le téléphone du client de façon à vous apprendre où il se trouve, quand il s'en va ou combien de fois il est venu dans le magasin. En fait, au départ, les employés avaient un badge spécial ou utilisaient un signal spécifique afin de ne pas être pris en compte dans la base de données. Vous ne vouliez surtout pas que vos données vous indiquent qu'un client, qui serait en fait un employé, a passé 8 heures dans le magasin. Cela fausserait complètement le jeu de données. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où vous collectez également des données sur vos salariés afin de les exclure du jeu de données clients, vous disposez d'informations sur vos salariés, ce qu'ils font et où ils sont. Et donc, d'une certaine façon, la surveillance des employés va de pair avec celle des clients. Une des choses que nous souhaitions mettre en lumière avec l'article, c'est d'une part que les managers des entreprises où ces systèmes sont en place doivent davantage prendre en considération les conditions de travail dégradées de leurs salariés, et d'autre part la question plus large de la surveillance réfractive. Ce n'est pas parce que ces logiciels ressemblent à de la surveillance du client que cela n'a pas un impact sur d'autres groupes, notamment les travailleurs.
La surveillance réfractive, Karen Lévy, professeure assistante à la Cornell University, au micro de Clément Salazar. Réaction Blaise Mao, Marie-Line Laurent, parce que là, on voit très bien qu'il y a aussi des conséquences en ricochet de ce traçage qu'on n'imagine pas forcément à première vue. Hein. Blaise Mao.
Oui, ça se développe effectivement. Les entreprises qui équipent leurs salariés, leurs employés d'objets connectés, parfois, alors où ils travaillent, il y a un logiciel qui les mesure, mais parfois c'est carrément le port d'un bracelet, hein, c'est en train de se développer aux États-Unis, où en fait on sait même plus, on va pointer, on sait à quelle heure vous arrivez, à quelle heure vous partez, c'est carrément, on sait en permanence, grâce à la géolocalisation, où vous êtes dans l'entreprise, que vous soyez aux toilettes, en salle de réunion ou en train de faire une pause cigarette. Donc ça, ça pose des questions de législation, on le disait tout à l'heure, mais plus largement de choix de société. C'est-à-dire, est-ce que le numérique, si vous voulez, a complètement éclaté la temporalité du travail. Ça, on le sait déjà. On peut travailler le soir, la nuit, envoyer des mails à toute heure. Et on est en train de créer, en fait, des métiers et de créer une forme de dépendance et d'exigence de disponibilité. Voilà, en fait, c'est ça qu'on est en train de créer par le numérique et par la remontée permanente de données.
Marie-Line Laurent, je vais vous laisser aussi réagir librement, mais je voudrais quand même juste qu'on pose un tout petit peu les choses. L'Internet des objets, disons que c'est l'extension d'Internet à des choses, à des lieux. On parle parfois d'une révolution 3.0 en référence à la révolution 2.0 avec ce web, disons, collaboratif pour aller vite qui constituait déjà une révolution. De quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle d'Internet des objets? Quel est aujourd'hui son niveau de croissance et vers où nous conduit-il? Marie-Line Laurent.
Oui. Alors l'Internet des objets, ce sont des objets qu'on peut vraiment trouver dans notre vie de tous les jours. C'est effectivement les wearables qu'on porte au poignet classiquement pour faire des mesures hein, de performance, on en parlait tout à l'heure. Mais ça peut être également des objets de la domotique. Donc ça peut être un réfrigérateur hein, qui émet un certain nombre de données sur, je sais pas, le manque de beurre. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Hein. C'est-à-dire que il peut très bien passer commande à votre place. Aux États-Unis, par exemple, il y a un bouton qui s'appelle le dash button qui se trouve au niveau d'un
un vide ordure d'une poubelle
d'un lave-linge.
D'accord.
Et en fait, dès que la vaisselle vient à manquer, le produit vient à manquer, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là et la commande part aussitôt.
Bon, ça m'a l'air très pratique tout ça.
C'est super pratique, mais c'est très inquisiteur. C'est-à-dire, c'est également votre smartphone. Après tout, c'est un objet. Vous l'emmenez partout avec vous. Donc ça, c'est un mouchard extraordinaire. On sait exactement à tout moment où vous êtes géolocalisé. Donc moi, c'est vrai que ces objets, en fait, ont amplifié finalement les données personnelles qui nous caractérisent. Ils les ont gravement amplifiées parce qu'ils détectent notre présence, par exemple, à notre domicile. Ça peut être ça, parce qu'ils sont, ils donnent finalement des informations sur nos comportements, à quel moment on se connecte sur telle application, on est plutôt adepte de tel jeu, je ne sais pas, Pokémon dont on parlait tout à l'heure, on connaît notre géolocalisation. Donc c'est vraiment des objets qui sont extrêmement bavards. Finalement, quant à notre
et pas suffisamment sécurisé.
Et franchement, pas sécurisé. Très, très peu sécurisé. Ouais. Et je voulais rebondir là-dessus, puisque moi, j'enseigne en fait dans une école d'ingénieurs qui est Télécom Sud Paris. Et en fait, nous, on forme des ingénieurs et on essaye dans cette formation aussi de leur inculquer finalement une certaine éthique. Mmh. C'est-à-dire, là, développer un système qui permet de mesurer, je sais pas, le volume de clients finalement en magasin. Et bon, alors ça peut effectivement être beaucoup plus performant pour le magasin en question qu'il met en place, mais il faut aussi réfléchir aux conséquences en fait. Et on se rend compte qu'à chaque service finalement qui est très convivial, qui va proposer un certain nombre d'agréments, eh bien, peut y avoir un revers. Et il faut vraiment s'intéresser à ce revers aussi, c'est-à-dire qu'à ces ingénieurs finalement, on va leur apprendre. Ou en tout cas, on va essayer de leur dire, soyez vigilants, ne soyez pas moteurs dans une société. Et on parlait tout à l'heure de la stratégie, hein, quelle société on veut.
Est-ce qu'ils y sont sensibles ou est-ce que finalement la prouesse technologique gagne?
Ça les interpelle beaucoup et on leur dit, c'est vraiment dans vos mains, quoi. Donc ne faites pas n'importe quoi plus tard.
Blaise Mao.
Oui, on a un chapitre du livre Cyberphagie qui s'appelle Mouchard à domicile, où on parle justement de tous ces objets connectés. On peut rajouter le babyphone. Il y a eu des affaires de hacking de babyphone à distance aux États-Unis, spectaculaires, avec un type qui se met à parler à votre bébé en pleine nuit. Il y a les frigos connectés. On peut parler aussi des poupées Barbie connectées, où là aussi, il y a eu sur les jouets connectés, il y a eu parfois des vols de données. Alors, c'est pas des données très sensibles, mais c'est quand même les données de vos enfants. Et le cas en France, qui est aujourd'hui le plus emblématique de cette question des objets connectés, c'est Linky. C'est le compteur EDF qui va être déployé dans tous les appartements de France entre 2017 et 2020. Linky, donc, est un compteur intelligent, compteur électrique intelligent, qui va mesurer en temps réel votre niveau de consommation et va vous aider à l'adapter. Donc, une bonne idée, a priori.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Voilà. On va réussir à normalement payer moins, faire baisser notre facture.
Sauf que,
nous, on a rencontré un chercheur de Saclay qui nous dit que Linky, avec son équipe de hackers, il s'est amusé à le bidouiller et en 3 heures, ils avaient réussi à renverser les données, à faire payer plus le compteur Linky qui était à 10 mètres d'eux chez le voisin. Donc, il y a un risque de piratage très élevé, apparemment.
Mais c'est pas que ça.
Et c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est un déploiement massif national sans qu'on vous ait sollicité, vous, en tant que citoyen. Vous choisissez, je veux prendre Linky, je veux pas prendre Linky. C'est un déploiement massif. Il y a quelques départements qui sont en train de se dresser contre Linky. Mais là, on parle d'un déploiement d'un objet connecté dans chaque placard de chaque maison de France.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à présent aux conséquences politiques de tout ça. On va retrouver un nouvel invité qui est Bernard Harcourt, qui est professeur de droit à Columbia University. Il dirige le Center for Contemporary Critical Thought, c'est-à-dire un département d'études critiques. Il mène toujours son activité d'avocat, mais seulement dans un but militant anti-peine de mort. Il est auteur d'un ouvrage qui est paru l'année dernière, qui s'appelle Exposed, qu'on pourrait traduire en français par la société d'exposition. Il parle dans son livre d'un homo digitalis. On peut dire que c'est en quelque sorte son double numérique. Aujourd'hui, on est dans un monde où chacun s'expose de façon tout à fait consentante sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et ce qu'il a voulu analyser, critiquer, c'est ce que ce consentement finalement produit sur les individus, à la fois sur la manière de se penser soi-même, mais aussi de penser son rapport à l'autre. Alors on peut s'interroger sur le pouvoir politique associé à ces acteurs du numérique, Google, Apple, Facebook, dont on a parlé. Pour lui, leur pouvoir est absolument immense. Il a presque l'air de dire que Apple finalement et les autres acteurs du numérique sont en train de gouverner le monde. Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré? Est-ce que c'est pas un petit peu oublié le pouvoir du politique? C'est la question que je vais poser. Bernard Harcourt.
En aucun cas, j'essaie d'oublier le pouvoir politique. Ce que j'essaie de faire, c'est de le réfléchir et y changer. On vient de voir Apple, qui était en train de dire très récemment, qu'ils ne veulent plus travailler nécessairement avec le département de la défense, le DOD aux États-Unis. Vous savez, pendant beaucoup de temps, l'invention numérique, le progrès numérique se faisait à travers des concours soutenus par, aux États-Unis, ça s'appelle the DARPA, c'est le département vraiment pour la technologie, etc. Et dans le passé, Apple et les autres entreprises numériques travaillaient avec, participaient dans les concours et tout ça. De moins en moins, je pense, parce que ils se sentent comme s'ils dépassent un peu la technologie gouvernementale et les appareils gouvernementaux. Il faut donc repenser le politique entièrement, parce que quand Apple ou Facebook décident de censurer des choses en Chine, par exemple, c'est bien du politique qui est en train de se jouer là. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est la manière dont le commerce gouverne, la manière dont le gouvernement fait du commerce et vend des informations, etc. Et il faut réfléchir, je pense, la relation entre l'État et le secteur numérique, commercial, etc.
Alors justement, comment faire les choses? Parce qu'après avoir minimisé leur pouvoir, en fait, je vais dans votre sens, on est effectivement dans un monde où les acteurs économiques, et en particulier les acteurs du numérique, ont un pouvoir colossal. Le patron de Google est reçu par des chefs d'État et de gouvernement, il leur parle quasiment d'égal à égal, on le voit par exemple reçu par la chancelière allemande. On a vu récemment le patron d'Apple s'offusquer de voir la Commission européenne demander le remboursement de 13 milliards de dollars au titre de cet argent non perçu par l'administration irlandaise qui a volontairement passé un accord fiscal avec l'entreprise américaine. Il y a d'ailleurs sur cette affaire une étonnante alliance entre Dublin et la société Tim Cook. Par ailleurs, on observe aussi un peu partout que les sociétés sont de plus en plus méfiantes à l'égard de leurs responsables politiques. On l'a vu notamment à travers de nombreux mouvements sociaux. Vous êtes en ce moment, vous, à New York, on l'a vu avec Occupy Wall Street, on l'a vu avec les indignés, on l'a vu avec Nuit Debout. Compte tenu de ce nouveau contexte, comment redonner du pouvoir aux politiques?
Ça ne va pas être facile parce que c'est des secteurs, on appelait ça des systèmes autrefois, le système gouvernemental, le système commercial, etc., qui étaient autrefois séparés, qui sont maintenant de plus en plus complètement overlapping. Ils s'entrecroisent, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est la manière dont le pouvoir circule, je pense. Dans le monde numérique, le pouvoir circule d'une manière très différente. La logique, aujourd'hui, est très fondamentalement menée par le profit. Donc, il faut repenser dans le monde néolibéral comment se passe le gouvernement, parce que quand Facebook est en train de faire ce qu'ils font, ce qui les pousse le plus, c'est le profit. Donc, sécurité devient une question profitable. Ou bien, il faut repenser la sécurité à travers la logique commerciale. Et il me semble que les pouvoirs politiques traditionnels vont devoir se plier à cette logique parce que pour la gérer, il va falloir la comprendre et s'adapter de manière différente.
Bernard Harcourt, dans le sous-titre de votre livre, vous parlez de désobéissance à l'âge du numérique. C'est quoi la désobéissance numérique? Comment est-ce qu'on peut, dans cet environnement qu'on est en train de décrire, lutter contre cette surveillance, contre cette recomposition des pouvoirs qui s'organise autour de ce nouveau monde, dans ce nouveau monde? Comment faire? Ça serait quoi la désobéissance?
Vous savez, il y a beaucoup de modèles différents de désobéissance que j'essaie. Il y a des moyens d'essayer de se sécuriser contre la surveillance à travers l'utilisation de PIMS, Personal Management, de ses propres données, d'utiliser du encryption. Donc, il y a des moyens de ce côté-là. À l'autre extrême, il y a des moyens d'essayer de rendre transparent le fonctionnement et le numérique des sociétés, des gouvernements, etc. Donc du côté de WikiLeaks et du côté de Snowden, il y a toute manière d'essayer de rendre beaucoup plus transparent le fonctionnement des entreprises et des gouvernements qui essayent de se cacher derrière des murs, etc. Donc il y a différents moyens de résister, différents moyens de désobéissance. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que vraiment, le challenge, c'est qu'on est amené au numérique à cause de notre propre désir, de nos propres désirs, et de nos propres plaisirs, et de nos jouissances, de nos jouissances de s'exposer, de partager, d'envoyer des photos, d'envoyer des Snapchats à nos enfants, à nos parents, à nos amis, etc. Donc, ce qui nous entraîne dans ce domaine, c'est le désir, c'est la séduction. Et c'est ça, il me semble, qu'il faut qu'on comprenne et qu'il faut qu'on analyse et qu'il faut qu'on critique si on va faire des démarches vers une désobéissance.
Dernière question, Bernard Harcourt. Vous avez été très marqué par la pensée de Michel Foucault. Je crois que d'ailleurs vous avez édité certains de ses textes. En quoi la pensée foucauldienne nous éclaire-t-elle sur cette société d'exposition contemporaine qui, par ailleurs, évidemment, a totalement modifié notre rapport à l'autre? Évidemment, le lien social étant aujourd'hui très différent de ce qu'il était à l'époque de Foucault. Que nous dit cette société de la surveillance et de contrôle sur notre société contemporaine?
Je dirais que la société panoptique est très utile pour réfléchir notre situation contemporaine. Qui demeure aussi avec la société de spectacle. nous ne sommes plus dans une société panoptique ou disciplinaire à cause du rôle du désir. En d'autres mots, on ne se retrouve plus dans une prison panoptique, on n'est plus contrôlé de cette manière et la surveillance ne se passe pas de cette façon parce que on s'expose. Donc, il me semble que Foucault a été brillant pour nous démontrer la manière dont au 19e, au 20e siècle, des nouvelles technologies, des nouveaux appareils sécuritaires se sont développés. Mais je crois qu'il faut penser un peu contre ces modèles pour voir ce qu'il y a de différent, pour comprendre la société d'exposition. Donc je dirais que lire Debord, lire Foucault, lire Deleuze, c'est absolument essentiel pour comprendre notre situation actuelle, mais il faut qu'on la comprenne contre ces autres modèles.
Voilà, c'était Bernard Harcourt qu'on a joint hier depuis New York, professeur de droit à Columbia University, où il dirige ce département d'études critiques, auteur donc de ce livre « Expose, Desire and Disobedience in the Digital Age », qui est paru chez Harvard, qui sera peut-être traduit bientôt. Blaise Mao, nos vies connectées finalement doivent nous pousser à repenser le politique, Blaise Mao.
Repenser le politique et reprendre en main nos destins numériques. Je pense qu'on a vécu un premier âge numérique 2007-2008 jusqu'à aujourd'hui qui était celui du confort numérique. Avec un rapport à la technologie, on croyait que c'était quelque chose de magique, voilà, qu'on avait des services invisibles, qu'on était dans cet âge du confort. En fait, je pense qu'il faut bien avoir conscience qu'Internet, c'est physique, c'est des câbles, c'est des serveurs, c'est des outils de surveillance, et qu'il faut reprendre en main, savoir quoi faire de ses mains, savoir pouvoir démonter un téléphone, comprendre la vulnérabilité d'un appareil. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir un hacker ou un geek forcené. Non, il suffit simplement de prendre conscience de notre vulnérabilité et de reprendre en main notre destin numérique.
Marilyn Laurent, prendre conscience de notre vulnérabilité en guise de conclusion.
Moi je dirais en fait qu'effectivement il y a un déséquilibre de pouvoir entre les GAFA et les politiques et qu'en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que les GAFA connaissent les citoyens, finalement. Ils nous connaissent tous en tant que consommateurs, en tant que citoyens. Et donc, ils ont aussi un certain pouvoir. C'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer, lors d'une élection, il peut y avoir des indécis. Eh bien, les GAFA vont avoir un certain pouvoir de finalement manipuler les opinions en poussant un certain type d'informations vers les citoyens, et ça va pouvoir infléchir d'un côté ou d'un autre ces citoyens pour élire un président ou une
donc
instance.
Donc il faut avoir une conscience vraiment de cette capacité d'influence sur nos esprits. Merci beaucoup à l'un et à l'autre, Blaise Mao et Marilyn Laurent. Merci d'avoir été nos invités ce matin.
Merci.
Time to check my Facebook. Facebook, Facebook, gotta check my Facebook, gotta take another look.
Nothing new, I am hooked.
What to do? Hit refresh.
Facebook, Facebook, gotta check my Facebook, gotta creep on all my friends.
On a pris une musique qui va bien avec notre sujet du jour. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On pourra retrouver bien sûr les titres de vos ouvrages sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup. 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Un Brice Couturier qui, cette semaine, est dans les universités. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, les libertés universitaires sont menacées, disiez-vous hier, mais ne l'ont-elles pas toujours été peu ou prou? Les œuvres de Rabelais ont été condamnées en Sorbonne. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, finalement, Brice?
Certes, le fait de considérer les universités comme des lieux où le savoir peut être conservé, enrichi et transmis de manière rationnelle, c'est relativement récent, comme le concède l'auteur dont je parlais hier, Joanna Williams, dans son livre « Academic Freedom in an Age of Conformity ». C'est à partir des Lumières que s'est fait jour très progressivement une telle conception. Il est d'ailleurs assez frappant que le premier pays européen à établir formellement les libertés universitaires et à les faire figurer dans sa constitution ait été le très autoritaire mais très éclairé royaume de Prusse. C'est Wilhelm von Humboldt, le fondateur de l'université de Berlin, qui a été le créateur du modèle universitaire prussien. Il repose sur le principe de l'autonomie des universités, de la liberté des étudiants de construire leur propre cursus, la fameuse Lernfreiheit, et sur l'imbrication de l'enseignement et de la recherche. Il s'est rapidement répandu, ce modèle, dans toute l'Allemagne. Ce modèle, il a fait l'admiration du monde. À la fin du 19e siècle, il a inspiré la création des universités américaines. Nombreux ont été les intellectuels français à attribuer la victoire des Allemands de 1870, à l'excellence de leur formation supérieure. D'ailleurs, de nombreux historiens se sont rendus en Allemagne durant les années suivantes pour y découvrir le secret de la supériorité de la science allemande, des méthodes allemandes d'enseignement du supérieur. Citons Seignobos, Camille Julian, Ernest Lavis, mais j'ai une tendresse particulière pour le père Didon, un théologien qui a publié en 1884 un livre dont je suis propriétaire qui s'intitule « Les Allemands ». Il y relate les années qu'il vient de passer dans les universités allemandes et il écrit, je le cite, « Je ne viens pas dire « faisons comme les Allemands », je dis « faisons mieux ». Je ne dirais pas « imitons leurs universités, leurs écoles, leur armée, leur esprit national », je dis « dépassons-les ». Mais enfin, le poids du contrôle des autorités religieuses sur les études supérieures se faisait encore sentir en Europe durant la deuxième moitié du 19e siècle. Le grand livre de Darwin sur l'origine des espèces, qui a été publié en Angleterre en 1859, eh bien, jusque dans les années 1880, son étude était interdite dans les collèges d'Oxford et de Cambridge. Mais les États, eux, ont compris très rapidement tout le parti qu'ils pouvaient tirer des avancées scientifiques occasionnées par la recherche universitaire et du prestige de leurs savants. Les universitaires ont dû batailler pour conserver leur indépendance. Celle-ci est régulièrement compromise par les pressions qui s'exercent à travers les commandes, les bourses, tendant à orienter la recherche vers des sujets utiles à l'industrie ou à la défense.
Mais vous disiez hier, Brice, que les libertés universitaires étaient à nouveau menacées, pas de la même manière que dans le passé. Vous avez des exemples ?
Eh bien oui, un tout récent. En juillet dernier, à la fin juillet, l'université du Cap, en Afrique du Sud, a désinvité soudain Fleming Rose, à qui elle avait pourtant demandé une conférence sur la liberté d'expression. Ça ne s'invente pas. Fleming Rose, c'est un des rédacteurs en chef du magazine Yeelands Posten, qui a déclenché des émeutes à travers le monde entier pour avoir publié les fameuses caricatures de Mahomet. Ces émeutes ont donné lieu à plusieurs incendies d'ambassade, à Damas notamment. Elles ont provoqué la mort de 139 personnes. Ce sont les raisons qu'a implicitement évoqué le vice-chancelier de l'Université du Cap, Max Price, pour annuler l'invitation. Dans une lettre ouverte, celui-ci écrit qu'une conférence de Fleming Rose dans son université risquerait, je cite, « de retarder » plutôt que de faire avancer la liberté sur le campus. Les libertés universitaires sont pourtant garanties par la Constitution sud-africaine. Seule limite, la propagande en faveur de la guerre, l'incitation à la violence ou à la haine raciale ou religieuse. Mais Max Price invoque le contexte et les conséquences et les risques de polarisation. Bref, il sous-entend que certains étudiants musulmans pourraient perturber l'événement et donc il l'annule. La présence dans le même cadre de Howard Zinn ou de Noam Chomsky dans les années précédentes n'avait posé aucun problème. Mais une partie des étudiants musulmans de l'université du Cap proteste. On nous soupçonne, disent-ils, de vouloir provoquer des troubles. Le vice-chancelier cherche à nous faire passer pour des gens intolérants. Celui-ci affirme de son côté qu'il n'a cherché qu'à éviter de heurter les convictions des musulmans de son université, ce qui nous ramène à Joanna Williams. Elle écrit dans son livre « Les libertés universitaires sont désormais restreintes à travers une culture du conformisme qui encourage l'autocensure. Cela prend diverses formes, comme la suppression de domaines de recherche qui pourraient apparaître comme risquant de donner lieu à des controverses. » Comme elle paraît lointaine, l'époque où le futur président John Fitzgerald Kennedy s'exprimant devant les étudiants de Harvard en 1956 déclarait « Le seul but de l'université est l'avancement de la connaissance et la dissémination de la vérité ». La recherche du savoir en tant que quête de la vérité, écrit encore Joanna Williams, est aujourd'hui décriée. Le savoir est trop souvent réduit à des points de vue particuliers, représentant chacun sa vérité, basée sur l'appartenance à un groupe social ou sur l'identité. Fin de citation. Mais les identités culturelles, si elles peuvent comporter une mémoire collective et un point de vue sur le monde, ne constituent pas en tant que telles un savoir. En outre, elles ne favorisent guère le dialogue et l'échange, mais donnent lieu, au contraire, à une concurrence pour l'exercice du pouvoir.
Voilà, ce conformisme qui gagne peu à peu le monde universitaire et on s'en inquiète. Merci beaucoup Brice Couturier, on peut bien sûr retrouver votre chronique sur la page de France Culture. Merci infiniment, on vous retrouve évidemment demain à 11h53, comme chaque jour désormais depuis le début de cette saison, Brice, avec votre tour du monde des idées. Dans un instant sur France Culture, c'est la grande table avec Olivier Jasberg. Très belle journée et à demain.